Europe 1,
16h-18h, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, bienvenue dans l'équipée sauvage. 2 heures de détente pour muscler vos zygomatiques et vos neurones. Et puisqu'on va beaucoup parler du retour à la nature aujourd'hui, je tiens à rappeler que j'en suis moi-même un des grands artisans, puisque dans une rédaction où beaucoup trop de journalistes végétaient dans un confort qui les ramollissait, j'ai réintroduit la loi de la jungle. Désormais, chaque après-midi, ils sont en compétition. Qui vous offrira l'info la plus étonnante, l'histoire la plus édifiante? Un seul sera élu chroniqueur du jour. Et je peux vous dire que réinstaurer la loi du plus fort dans une rédac, ça a du bon. Nos journalistes se bonifient de jour en jour, n'est-ce pas Eva?
Tu savais que le nerf optique, c'était le nerf le plus long
du corps humain? Non, coupez-la, elle est hors compétition, mais les autres se bonifient, je vous assure. Bonjour Eva Roque.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Tout à l'heure, vous nous direz ce qu'on garde à la télé ou sur les écrans ce soir. Mais d'abord, une indicible émotion m'étreint. Oui, quand une indicible émotion m'étreint, on fout bac. Car pour la première fois de l'histoire de l'équipe est sauvage, et même de toutes les émissions que j'ai eu la chance de présenter, je vais enfin pouvoir utiliser mon son fétiche, mon son préféré, à bon escient, c'est-à-dire avec un invité qui correspond vraiment à la description faite du personnage dans ce film mythique. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous présente Jean-Louis Etienne, car pour une fois, c'est vrai.
Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise, avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine, avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel.
Bonjour Jean-Louis Etienne.
Bonjour.
Vous êtes le médecin aventurier le plus célèbre de France. Premier homme à avoir atteint le pôle Nord en solitaire en 1986. Vous nous présentez aujourd'hui aux Arbres Citoyens, aux éditions Paulsen, un plaidoyer en faveur de la nature. Vous, l'amoureux des grands espaces, vous estimez qu'au fil du temps, l'homme moderne s'est déconnecté de l'essentiel, à savoir la nature?
C'est évident. On a un rassemblement de plus en plus intense des citoyens en milieu urbain. Et la nature se vide. Malheureusement, notre action sur la nature fait qu'elle se vide, pas que ses humains, elle se vide de tous ses habitants.
On va parler de ce livre durant ces 2 heures, ainsi que de votre expédition à venir Polarpod. Mais d'abord, je vous présente nos 2 premiers journalistes en compétition aujourd'hui. Face à vous, n'ayez pas peur Jean-Louis. Certes, il vous est arrivé de croiser des ours polaires moins poilus et imposants que lui, mais c'est un garçon adorable qui partage votre souci écologique, comme il nous le révélait la dernière fois.
Je sais, je viens à vélo maintenant. Je vous le dis, je revois Hidalgo.
Bonjour Mathieu Charrier.
Bonjour, c'est vrai. Je viens d'arriver à vélo.
Vous et vous votez Hidalgo.
Ça, je sais pas, mais si elle continue les pistes cyclables, peut-être.
Vous êtes le monsieur cinéma d'Europe 1, et vous aussi, comme Jean-Louis Etienne, vous avez déjà affronté des températures polaires, puisque vous êtes déjà rendu au Festival de l'Alpe d'Huez. Et aujourd'hui, vous nous révélez qu'il existe un incroyable business de faux billets de banque fabriqués pour le cinéma et qui se retrouvent ensuite en circulation. Si ça se trouve, j'ai sur moi, vous avez sur vous, chez vous, auditeur, un faux billet de banque.
La difficulté, c'est que ces faux billets de banque, ils sont considérés comme des objets de cinéma et donc pas interdits. Et aujourd'hui, il y a tout un trafic autour de ces faux billets. Alors, il y a quand même quelques subtilités que je vous raconterai tout à l'heure. Mais c'est vrai que ça, vous pouvez assez vite vous faire berner. Donc, il faut faire très attention, c'est en plein essor.
À ses côtés, Jean-Louis Etienne, un gaillard qui lui aussi va vous plaire. Il partage avec vous le goût des voyages au long cours.
J'ai une passion pour les aires d'autoroute.
Oui, sauf que lui, il n'est jamais allé plus loin que l'air de Lançon de Provence sur la 6. Il a fait une syncope à l'Hippopotamus, tombé tête la première dans le Tartare. C'est un dandy parisien qui s'évanouit dès qu'il est à plus de 20 kilomètres du Café de Flore. Je vous présente le spécialiste littérature d'Europe 1, Nicolas Carr. Bonjour Nicolas.
Bonjour, je suis nantais.
C'est bon de le rappeler. Cet après-midi, vous essayez de décrocher le vote de notre invité. Vous lui parlez du nature writing, c'est la nature qui est l'héroïne du roman.
Exactement, et on ne peut pas vraiment le dire en français parce que c'est une tradition littéraire américaine qui nous vient du Montana, vous savez, avec notamment le célèbre « Et au milieu coule une rivière ». Il y a des dizaines et des dizaines de romans comme ça qui parlent de la nature et c'est une vraie tradition littéraire américaine magnifique, à commencer par Walden de Thoreau, qui est un livre,
Alors
c'est T-H-O-R-E-A-U. Donc
Thoreau. Comment vous dites-vous Jean-Louis?
Mais soit à l'anglaise on dit Thoreau, alors, mais quand j'ai demandé vous avez Thoreau, on demande à un libraire est-ce que vous avez Thoreau, il me dit non, vous avez Thoreau, oui.
Donc Thoreau. On va en parler, voilà le programme, l'équipe est sauvage, c'est parti.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
C'est donc l'explorateur le plus célèbre de France, Jean-Louis Etienne, qui nous accompagne. Jean-Louis, avant de partir dans une incroyable mission de 2 ans dans l'Antarctique, Polarpod, dont on va reparler, vous nous présentez aujourd'hui un livre, « Aux arbres citoyens », publié chez Paulsen, qui, on peut le dire, tout simplement une déclaration d'amour aux arbres.
Oui, c'est une demande d'éditeur, les éditions Paulsen, parce que moi je travaille le bois, je suis bricoleur, j'ai toujours aimé ça, j'ai construit mes cabanes dans le Tarn, etc. Et donc les éditions de Paulsen me demandent, est-ce que tu peux m'écrire quelque chose sur cet amour du bois, est-ce que tu travailles, les forêts, etc. Et au fur et à mesure que j'écris, je me rends compte que l'arbre, c'est un être absolument extraordinaire. C'est lui qui va nous réconcilier entre l'homme et la nature. Et donc, c'est un plaidoyer pour l'arbre. Et pour tout vous dire, je l'avais appelé « L'arbre est l'avenir de l'homme ». hein, Aragon, etc. Et puis je parlais avec des copains, il n'y a pas très longtemps, on était... J'ai fait la course autour du monde avec Tabarly, on était des anciens, Philippe Poupon, Titouan Lamazou, tout ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'écris un livre sur les arbres, comment ça s'appelle? L'arbre et l'avenir de l'homme. Ça avait ému personne. Et en partant, les Titans, j'ai dit, les gars, n'oubliez pas, hein, aux arbres, citoyens. Et tous, là, ils me disent, mais putain, c'est le bon titre.
Ça voilà. Vient souvent comme ça, les bons titres. Je ne sais plus comment on avait trouvé l'équipe sauvage, nous, on devait être bourrés. Il y a des réponses à des questions qu'on se pose sur la nature, sur les arbres, des réponses très concrètes. Par exemple, pourquoi les feuilles sont vertes? Moi, c'est vrai que mon fils m'a demandé une fois, je n'ai pas su lui répondre. Pourquoi les feuilles sont vertes, Jean-Louis?
Oh, c'est compliqué. En fait, c'est compliqué. Je vais essayer de simplifier les choses, effectivement. Dans la nature, si vous voulez, tout le rayonnement que nous recevons du soleil est invisible.
Hein, c'est, la lumière blanche.
Ouais. C'est invisible. C'est ce que regardent, quand regardent les astronautes qui sont dans la station spatiale, regardent, c'est noir. Donc c'est invisible. En fait, la lumière est déclarée par la percussion entre ces rayons électromagnétiques du soleil qui sont invisibles avec une certaine matière. C'est peut-être l'air, l'atmosphère qui fait que tout d'un coup, il y a du bleu qui émerge. Et le pigment de chlorophylle, il absorbe autre chose que le vert. Il absorbe le bleu, le rouge, et donc il libère le vert. Et c'est le vert qui apparaît à nos yeux. Puis après, c'est vachement compliqué, parce qu'en plus, ça imprègne la rétine.
Eh oui.
Voilà. Et puis la rétine va conduire le signal qu'elle reçoit au cerveau. Et ting, ça va toucher ce qui est en mémoire. Et nous avons tous appris que les feuilles sont vertes. Et tac, cette lumière-là signale que le...
Si, voilà. Si jamais vous réussissez à provoquer un ting dans l'esprit des Varrocks, c'est vraiment que vous êtes très fort. Il publie Aux arbres, citoyens.
Vous allez recevoir un autre de ting, vous allez
aux éditions Paulsen. Jean-Louis Etienne est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, au départ, c'était un simple sujet. Une enquête qu'il devait mener avec l'éthique journalistique qui sied à son statut de vice-chef adjoint du service culture d'Europe 1. Et puis en découvrant les tenants et aboutissants de cette affaire de faux billets dans le monde du cinéma, il s'est rappelé le montant de son salaire net de vice-chef adjoint du service culture. Et alors là, il s'est dit...
Putain, il y a des couilles en or à se faire.
Des faux billets de cinéma, utilisés ensuite dans le monde réel. Pour une fois, Mathieu Charrier est allé au bout de l'investigation.
Europe 1, 16h-18h,
L'équipe est sauvage sur Europe 1,
16h-18h,
Mathieu Noël.
Vous aimez rire, découvrir, vous cultiver sans pour autant vous péter un neurone. Vous aimez aussi l'aventure et les grands espaces. Comme moi et mon ami Jean Dujardin, vous vous dites souvent devant le spectacle fascinant de Dame Nature:
j'aime les panoramas.
Bienvenue dans l'équipe est sauvage, en présence aujourd'hui d'un immense aventurier, Jean-Louis Etienne, qui vient nous présenter son dernier livre, Aux arbres, citoyens. On continue d'en parler, Jean-Louis, mais comme le dit le dicton inuit, quand faut y aller, faut y aller. Face à vous, Jean-Louis, un fin connaisseur. Ouais, moi aussi, j'ai voyagé, vous savez. Hein. Un fin connaisseur des territoires polaires qui a étudié l'Arctique à travers des ouvrages de référence, notamment Bibi Fock et les gentils pingouins. D'où ces fulgurances en fin de dîner.
Les manchots, ils sont manchots.
Mathieu Charrier, vous êtes notre expert cinéma.
Je sens que celui-là, il va rester.
Oui, c'est possible. Ouais. Surtout avec ce ton que vous avez employé pour le dire. Vous pérorez aux premières places du championnat européen. Avec quel sujet comptez-vous vous y maintenir?
Alors, je vais vous parler des faux billets qu'on utilise au cinéma avec certains. Une petite idée pour les recycler. Alors on les appelle ces billets, déjà pour expliquer un peu le contexte, les movie money, évidemment. Effectivement, c'est eux qu'on voit, vous savez, dans les mallettes lorsqu'il y a des gros trafics de drogue, ou même pour acheter le pain dans un film, parce que vous imaginez si on mettait des vrais billets sur les plateaux de tournage, quelque chose me dit qu'ils ne resteraient pas longtemps en service. Alors ils ont quand même, ces movie money, en principe quelques particularités pour qu'on puisse les distinguer. Alors déjà, pour remplacer, vous savez, la petite signature de Mario Draghi en dessous du drapeau européen, là il y a une signature avec marqué Movie Money, comme son nom l'indique.
Oui, mais c'est quand même pas des très bonnes imitations, non,
non,
de
non.
Loin.
Non, mais c'est tout est écrit ça en marche, petit. Mais... Vous savez, sous le sigle euro, normalement, s'il y avait marqué euro en grec, ben là, c'est rajouté, c'est accessoire traduit en grec. Vous voyez, il y a des petits trucs comme ça. Il y a une petite phrase sur le côté qui dit « Ce billet n'a pas cours légal, son utilisation est réservée au cinéma ». Sauf que tout ça, c'est vraiment écrit
tout petit.
J'ai regardé.
C'est-à-dire qu'à la boulangerie, vous avez fait l'essai, vous avez acheté 3 baguettes sans problème.
Non,
quoi.
Parce que je peux finir en prison si je fais ça. Ah. Mais effectivement, il y en a certains, des petits malins, qui ont eu l'idée de se dire « Tiens, est-ce que je ne peux pas utiliser ces billets en dehors des plateaux de tournage ?» Parce que ces billets, il y a un petit flou juridique, ils sont considérés comme des objets de cinéma. Donc, ils ne sont pas interdits, puisque ce sont des objets de
fausse monnaie.
Non, c'est pas
c'est
de la
ça,
fausse
le flou juridique.
À proprement parler. Donc, vous pouvez plaider le fait que c'est...
Surtout,
voilà,
vous pouvez les commander sur Internet. J'ai regardé sur un site très connu, que je ne vais pas citer, mais que tout le monde connaît.
Vous pouvez acheter des billets de cinéma. Alors, par exemple, si vous voulez 15 billets de 50 euros, ça coûte 4,99€.
C'est un bon rapport.
1,99€.
Je sens que l'expédition PolarPod va se faire plus vite que prévu, là. Hein. Il a trouvé.
Voilà, pour 5 euros, vous avez l'équivalent de 750 euros en billets de 50. Alors, pour les utiliser,
faut quand même plutôt dans le noir ou avoir, que vous disiez, une boulangerie. Non, mais une boulangère.
En boîte de nuit, c'est pas mal.
En boîte de nuit ou une boulangère qui a des lunettes à triple foyer qui voit pas très bien, ça peut passer. Mais c'est vrai quand même que, bah voilà, il y en a de plus en plus.
Toucher, et au toucher.
Oui. Au toucher, c'est du papier de cinéma, c'est-à-dire c'est du papier de.
Même pas bien travaillé.
Non, mais vous savez, vous le froissez. D'accord. Une fois que c'est un peu froissé ou un peu abîmé dans une poche, encore une fois, je vous dis, si je vous en donne un là, en pleine lumière. Vous risquez de voir la subtilité, mais sinon...
Mais c'est quand même un vrai phénomène.
Ah oui, parce que ça inquiète tellement les autorités qu'ils ont organisé un séminaire sur le sujet récemment à Marseille, avec une quinzaine de pays de la zone euro. Parce qu'en plus, c'est faux billets. Il faut savoir que, je vous le disais, vous n'avez pas le droit de les utiliser, mais vous avez le droit de les commander. C'est toute la subtilité. Il y a un bonhomme, il s'est fait pincer avec 1 million d'euros de billets de cinéma. Eh bien, les policiers l'ont arrêté, mais ils ont été obligés de le relâcher parce que tant que vous ne tentez pas de les utiliser frauduleusement, vous avez le droit de les avoir, ces faux billets. Oui. Donc, il y a tout un flou juridique aujourd'hui. Et les policiers, ils expliquent que les années passées, ils trouvaient comme ça une centaine de faux billets en France, de billets de cinéma. Là, depuis le début de l'année, en Europe, on en a déjà trouvé 20 000. Donc, c'est vous dire s'il y a des petits malins qui se sont dit... Il y a un business à se faire et c'est pour ça que les autorités alertent, parce que vous pouvez aussi vous retrouver un jour avec votre commerçant qui vous rend la monnaie en faux billets parce que lui-même, on lui a donné un billet de cinéma. Donc, il faut faire un petit peu attention. Franchement, la subtilité, vous la voyez. En plus, en théorie, ils sont un petit peu plus grands. Ils doivent faire 25%. Mais bon, comme il y a un flou juridique et que tout ça au niveau européen n'est pas très harmonisé, et ben voilà.
Avec modération.
Mathieu Charry qui me regarde en faisant de gros clins d'œil, insinuant que nous allons utiliser ces faux billets très prochainement.
Pour payer les chroniqueurs,
ça serait pas mal ça. Ces histoires d'argent me font penser, Jean-Louis Etienne, vous financez comment ces expéditions incroyables? Là, vous êtes sur une expédition qui s'appelle Polar Pod, ça va être 2 ans dans l'Antarctique. Comment vous trouvez les moyens financiers pour ça?
C'est un long travail.
Que ce n'est pas la partie que vous préférez de votre travail.
Non, mais vous savez, de trouver des financements, ça veut dire que vous alertez. Vous essayez de trouver quelques mots. Ce n'est pas un mail qui fait une page. C'est la pertinence de quelques mots de manière à ouvrir la porte. Et après, il faut défendre le projet. Plus difficile, c'est d'ouvrir la porte, que quelqu'un vous écoute. Et là, quand la porte s'ouvre, tac, il faut mettre le pied.
Là, on vous écoute, tac, Jean-Louis Etienne est notre invité sur Europe 1. Il passe l'après-midi avec nous pour son livre « Aux arbres citoyens ».
Europe 1.
À suivre, on continue notre expédition au cœur de la nature avec Jean-Louis Etienne. Et après son livre « Aux arbres citoyens », on évoquera sa prochaine expédition en Antarctique. Eva, vous êtes prête pour l'expédition Polar Pod ?
J'y vais, mais j'ai peur ! Parce que la neige, elle est trop molle !
Mais non, mais c'est façon de parler, Eva. Personne ne vous demande d'y aller. Bref, on se retrouve avec le passionnant Jean-Louis Etienne juste après Pink et Can We Pretend sur Europe 1. Can We Pretend, c'était Pink sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, 2 heures au cœur du savoir, du rire et exceptionnellement aujourd'hui, parce que d'habitude on est des trouillards, de l'aventure. Il faut dire, Jean-Louis Etienne, qu'avec vous on irait au pôle sud, hein, mais vous passerez quand même devant au cas où il y a des ours. Rentrée chargée pour vous avec ce livre « Aux arbres citoyens » qui nous incite à replacer l'homme au sein de la nature. Et puis cette expédition incroyable que vous préparez depuis maintenant près de 8 ans, Polar Pod, qu'est-ce qu'elle va avoir de particulier cette mission ?
Alors donc c'est l'étude de l'océan Austral. L'océan Austral, c'est l'océan qui est autour de l'Antarctique. Là on parle du continent du pôle sud. Mmh. C'est un immense océan qui réunit les 3 océans, l'Atlantique, l'Indien et le Pacifique, une espèce de courroie de transmission qu'empruntent les marins du Vendée Globe tous les 4 ans. C'est ce qu'on appelle les 40e, les 50e hurlants.
Oh, c'est super loin, dangereux, Jean-Louis.
Ouais. C'est très peu étudié, c'est très vanté. Et toutes les publications se terminent. On a besoin de mesurer in situ de longue durée. Ça veut dire qu'il faut... Comment est-ce qu'on peut s'installer sur cet océan pour l'explorer? Et dans le Polar Pod, c'est un vaisseau vertical. C'est un navire vertical, en fait. Il est profond. Il descend à 80 mètres et on est pris dans des eaux stables. C'est ça le principe du Polar Pod. Quand le vent souffle, ça creuse, ça fait des vagues. Et puis à un moment donné, ça ne creuse plus, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, si vous descendez jusqu'à 80 mètres, vous êtes pris dans des eaux stables. Et à la surface, il y a un treillis, c'est-à-dire les vagues nous passent à travers. Et donc, c'est beaucoup plus stable qu'un bateau.
C'est
donc,
la première fois qu'on fait un bateau comme ça. C'est une première
c'est
mondiale.
C'est la deuxième fois. Il y a un bateau américain qui a été construit dans les années 60. C'est un navire vertical qui dérivait dans le Pacifique pour écouter les sous-marins. C'était pendant la guerre froide. À 80 mètres sous l'eau, vous avez le silence. Et il mettait des hydrophones. Et pendant toute la guerre froide, ce navire, il s'appelle le Flip, il a dérivé dans le Pacifique pour écouter les sous-marins.
Mathieu Charrier.
J'ai une question sans doute très bête, mais 80 mètres de profondeur, comment vous l'emmenez jusque là-bas?
Ah, bonne question.
Ah oui.
Ah, c'est une bonne question, c'est vrai ça, Mathieu.
Est-ce que
ça se déplie? Oui. Est-ce que de...
Non, c'est pas télescopique. Ouais, c'est non. On l'amène à l'horizontale.
Ah oui, couché.
Ça bascule.
On l'amène à l'horizontale, couché, puis il y a ce qu'on appelle en ballast, c'est-à-dire il y a des réservoirs que l'on remplit d'eau de mer. Et petit à petit, il va basculer pour passer en position verticale. Il va être entraîné par le courant. On est autonome en énergie. Et l'électricité fournie par 6 éoliennes, on est tout à fait autonome en énergie.
Alors, au-delà du défi technique d'un navire vertical, il y a évidemment la dimension humaine de ces expéditions long cours. Dans une promiscuité ou une monotonie assez éprouvante pour les nerfs, il y a d'abord la nourriture.
C'est de la merde.
Les questions métaphysiques.
Qu'est-ce que je fous là?
Les rivalités entre collègues.
Surtout avec le salaire qu'il a, celui-là.
Ou encore les conversations potaches entre marins.
Franchement, je vais te dire, moi, Zaya, tu me la mets dans mon lit, j'en veux pas.
Oui, mais comme quoi, finalement, entre une expédition polaire et Europe 1, il n'y a pas tant de différence que ça. Il prépare sa nouvelle expédition Polarpod et publie Aux arbres citoyens. Jean-Louis Etienne passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
L'équipée sauvage, la grande compète des journalistes d'Europe 1 continue. Un nouveau concurrent va entrer en piste. Avec lui, on évoquera ses romans dont la nature est l'héroïne principale. Une émission vraiment passionnante, aujourd'hui riche en sensations fortes. D'une part parce qu'on reçoit l'aventurier Jean-Louis Etienne et d'autre part parce qu'on est filmé en HD.
Oh, je vois ma tête à la caméra et j'ai eu peur. Mais c'est horrible.
Beaucoup d'émotions dans la même journée.
16h, 18h,
l'équipée sauvage sur Europe 1.
L'équipée sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
Se détendre et rigoler.
Yeah.
Éteindre son cerveau.
Yeah.
Je vois que ça commence à rentrer. Vous écoutez l'équipée sauvage, 2 heures pour regagner votre domicile, le sourire aux lèvres tout en boostant votre culture G, en compagnie d'un invité d'honneur dont on a du mal à cerner les limites. L'explorateur Jean-Louis Etienne est avec nous. Jean-Louis qui pose une question, comment se fait-il que les êtres humains biologiquement si proches soient si différents en termes de rapport à l'aventure, au dépassement de soi? Comment se fait-il par exemple qu'à chaque fois qu'elle doit monter chez moi au 6e étage sans ascenseur, Eva s'exclame
« Non, c'est pas possible !»
Alors que vous pouvez vous taper 100 bornes à pied au pôle Nord. Est-ce qu'on a tous cette capacité de dépassement en nous, parfois bien enfouie, ou bien il y a seulement quelques élus comme vous, Jean-Louis Etienne, qui avaient le goût de ce dépassement de soi?
Non, il n'y a pas que moi. Sincèrement, je pense que moi, je vois des anonymes, si vous voulez, même qui partent en famille, qui partent en bateau, qui font des expéditions. Donc, il y a toujours ce goût de l'aventure qui est quelque chose quand même où il y a une liberté d'entreprendre. C'est ça qui est important. Il faut se donner cette liberté d'entreprendre. Et moi, c'est pour ça que j'arrive à créer des objets comme le Polarpod, parce que si vous demandez à une communauté scientifique internationale en disant « il faut étudier cet océan », tout le monde va penser « bateau ». Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai cette liberté qui me dit, mais attends, mais on peut inventer autre chose, quoi, voilà. Et donc, il y a beaucoup de monde comme ça, on le voit de plus en plus. Il y a des créateurs qui inventent des choses de plus en plus remarquables.
De l'aventure avec un grand A, nous passons à présent à l'aventure avec un petit A, Taoma 8, sur Word. Lui, le plus honneur qu'il soit jamais rendu, c'est Porte des Lilas pour un voyage d'études anthropologiques. Nicolas, un souvenir du 9-3?
J'étais allé une fois, c'est vraiment décadent.
Voici l'aventurier des mots, Nicolas Caro. Nicolas, aujourd'hui, un sujet sur mesure pour notre invité Jean-Louis Etienne.
Je sais que Jean-Louis Etienne M. Walden, de l'écrivain Thoreau, donc Thoreau, T-H-O-R-E-A-U, qui est un grand classique de la littérature américaine, publié en 1854. Et donc, c'est Thoreau qui part dans la nature, au plus profond de la nature, au bord de l'étang de Walden, dans le Massachusetts. Et il vit comme ça, il regarde la nature, il écrit ce qu'il voit. A priori, ça n'a pas l'air comme ça, la grande aventure, mais en fait, c'est une aventure humaine incroyable et surtout hyper poétique, parce que cette tradition américaine du nature writing, on appelle ça comme ça, ouais. Donc il n'y a pas vraiment d'équivalent en français, on dit la littérature des grands espaces, nous, quand on veut essayer de traduire, mais nous, c'est vrai qu'en France, on a plutôt une tradition citadine au 19e siècle, des Balzac, des Dumas, etc. On est moins dans les grands espaces et les auditeurs auront plein de contre-exemples à donner, certes, mais aux États-Unis, c'est une vraie école littéraire. Donc ça commence avec Walden, qu'il faut lire, qui est magnifique, et ensuite, c'est vraiment le pionnier, et ensuite, il y a eu, mais je ne sais pas, 300 écrivains connus qui ont écrit sur la nature et le nature writing. Il y a eu Jack Kerouac, connaît sur la route, donc là, qui est plutôt citadin, mais il y a aussi son grand livre qui s'appelle Big Sur. Quand lui fait comme Thoreau, il décide de partir, mais là on est au 20e siècle, il décide de partir en Californie dans le massif de Big Sur, c'est la forêt qui borde l'océan Pacifique au sud de San Francisco. Et là, il vit, et pareil, il décrit ce qu'il voit, et il y a des passages super parce qu'il est au bord de la mer, donc l'océan Pacifique, la nuit, et il entend l'océan. Et il essaye de retranscrire ça dans son livre, mais avec des sortes d'onomatopées. Alors, ça va vous faire un son super pour plus tard.
Ah, allez-y, lancez-vous.
Et il l'écrit comme ça.
C'est très bien, ça, Nicolas. Vous avez d'autres exemples?
J'en ai plein.
N'hésitez pas. Hein.
Alors, ça, c'est pour Kerouac, mais surtout, là où vraiment tout s'est concrétisé pour de bon, c'est dans le Montana. Tout le monde se souvient de « Et au milieu coule une rivière ». On le connaît beaucoup en France avec le film joué notamment par Brad Pitt, mais c'est un livre au début qui a été traduit en français « La rivière du sixième jour » qui est une très, très mauvaise traduction à mon avis. D'ailleurs, on reprend depuis le film le titre original en anglais, Et au milieu coule une rivière. Et donc, c'est l'histoire de Norman MacLean, l'écrivain, qui raconte son enfance dans le Montana, à Missoula en particulier. C'est une ville incroyable. Donc, elle est au milieu du Montana. Donc, le Montana, c'est les grands espaces, les grandes forêts, etc. Et il raconte ça et comment la pêche à la mouche devient le centre de tout et le centre des activités. La pêche à la mouche, c'est une pêche hyper littéraire, hyper poétique.
Pourquoi ?
Parce que à cause du bruit et à cause de l'environnement. Vous êtes, pour pêcher à la mouche, dans l'eau, vous êtes plongé jusqu'à la taille dans l'eau, et surtout, il y a le bruit de la soie, vous savez, qui fait comme ça.
On y est là. Je vois Brad Pitt, tu vois.
Et alors moi, je l'explique comme ça, cette tradition du Montana, parce qu'il y a eu une trentaine de grands écrivains qui ont habité à Missoula. Pas parce qu'ils étaient poètes ou écrivains et qu'ils sont partis à Missoula, parce qu'ils étaient à Missoula et ils sont devenus écrivains. C'est une sorte de mystère, comme ça, il y a un truc, un nœud dans l'univers à cet endroit-là, Missoula, qui crée des poètes à l'appel.
Il y a le faut partir en stage là-bas, Nicolas.
Il y a eu Légende d'automne de Jim Harrison. Alors pareil, qui a été adapté au cinéma. Et pourquoi ? Parce que ça fait des images fantastiques. Et en littérature, ça fait une poésie incroyable. La nature, c'est la poésie, mais c'est aussi l'aventure, évidemment, parce qu'il se passe toujours des trucs éventuellement dangereux. Et puis, c'est l'essence de l'humain. En général, dans ces romans-là, l'homme citadin, civilisé, reprend ses instincts primaires et revient à la nature avec tout ce que ça comporte de poésie, là encore. Et puis, ça continue aujourd'hui. L'année dernière, il y a Callan Wink, que vous connaissez pas encore, qui a juste publié un recueil. Le type ressemble à Brad Pitt. Il a 32-33 ans.
Déjà, je l'aime pas.
L'été, moi non plus. L'été, il est pêcheur à la mouche dans le Montana. Et l'hiver, il est surfeur en Californie. Et il écrit,
je l'aime encore moins. Plus ça va, plus que vous me racontez, là, ça me...
Mais il vit aussi à Missoula.
Et en plus, ça va devenir une star. Eh ben, bravo. Ouais. Bravo. Je vous dis bravo, Nicolas Carreau. Jean-Louis Etienne, vous, la nature, vous avez vécu en symbiose avec elle très jeune. Mais est-ce que vous l'avez découverte aussi via la littérature?
Non, je l'ai découvert, je suis né à Vielmur dans le Tarn, village tout petit, et derrière chez moi il y avait les champs.
Et, vous l'avez expérimenté.
Et donc j'étais un garçon très timide, et la nature était un refuge, vous voyez, et un lieu de défi. Aller chercher une pie au mois de juin, par là, quand elle est toute petite, qu'elle a déjà ses plumes pour l'apprivoiser. Moi j'avais des animaux apprivoisés, des tourterelles des bois apprivoisées, des choses comme ça. Donc j'ai vécu là-dedans, si vous voulez, c'était mon... Et ce que Soro est un précurseur dans la mesure où il va chercher une fusion, il veut en faire partie de cette nature.
Mais il habite dans une cabane, je crois, voilà, si je me souviens bien, il part vivre isolé au milieu des bois.
Il aimerait être un être de la nature. C'est un transcendantaliste, quoi. Hein. C'est un mec très instruit. Il a fait Harvard, etc. Il a ses copains. Et pendant que ses copains ont des carrières prodigieuses, lui, il veut... ce contact intime que vous décrivez très bien.
J'ai pas dit, il est parti 2 ans, 2 mois et 2 jours dans cette cabane au bord de l'étang.
Ouais. C'est quand même pas mal, 2 ans, 2 mois et 2 jours. Eva Rock.
Soro, il est aussi l'initiateur de la désobéissance civile. On en parle beaucoup en ce moment, hein, notamment avec des mouvements écologistes qui se revendiquent de ça. Quel regard vous portez sur ces mouvements-là ?
Désobéissance civile. Pour revenir à Soro, c'est vrai qu'il est un initiateur dans la mesure où il n'avait pas voulu payer ses impôts. Parce qu'effectivement, il était contre l'esclavagisme, etc. Donc, c'était déjà une désobéissance civile. Ça continue, si vous voulez, aujourd'hui. Tant que ça va jusqu'à la non-violence, ça me va bien. Mais dès que la violence s'en mêle, ce n'est plus de la désobéissance civile. Si vous voulez, il faut une élégance dans la désobéissance civile, celle qu'avait Soro.
Une élégance, il n'en manque pas. Il publie Aux arbres citoyens aux éditions Paulsen. Jean-Louis Etienne est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
Un moment important de l'émission se profile, le quiz. Notre invitée va défier Eva Rock, notre aventurière à nous. Oui, Jean-Louis Etienne, ne la sous-estimez pas, elle aussi est déjà partie en expédition dans le Grand Nord.
Ça sentait la bœuf de partout.
Non, mais ça oui, pour une niçoise, Amsterdam, c'est le Grand Nord. Hein, excusez-la, à tout de suite.
Europe 1, l'équipée sauvage, 16h-18h. 16h-18h sur Europe 1, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage. On passe un très beau moment cet après-midi, d'autant que pendant la pub, notre invité Jean-Louis Etienne nous faisait écouter le bêtisier de sa dernière expédition au pôle Nord quand il était bloqué sur la banquise. Que de souvenirs, Jean-Louis. On plaisante, mais c'est quoi, Jean-Louis, le pire et inversement le plus drôle des souvenirs que vous ayez de vos expéditions? Il a dû se passer des trucs dingues.
Le pire, c'est quand le danger vous menace, quoi. Hein.
Ça, vous l'avez vraiment expérimenté?
Ah oui, oui. Deux avalanches en Himalaya, très proches quand même. Et puis, j'ai failli passer à l'eau en allant au pôle Nord. C'est-à-dire que la glace s'est cassée sous mes pas. Et là, on sait très bien que si vous m'étiez enfoncé davantage jusqu'à la taille, je ne pouvais pas remonter. Et donc, je m'étais préparé à ça. Si à ce cas, il faut se coucher. C'est-à-dire limiter la pression, et puis j'ai rampé pour m'en sortir. Voilà, ça, c'est un mauvais souvenir.
Effectivement. Et le plus drôle, plus insolite, en tout cas
C'est à la base, quand on a traversé le Groenland, pour s'entraîner avant de traverser l'Antarctique, on était 6. Il y avait un Russe qui était soviétique, un Américain, un Japonais, un Anglais et moi. Et on arrive à ce qu'on appelle la Dew Line, Distress Early Warning, une base américaine au milieu du Groenland. C'est un dôme, et de loin, on regarde ça, on dit « qu'est-ce que c'est ?»
Une soucoupe volante.
Une soucoupe volante, quelque chose. Non, c'est une base secrète américaine qui est au milieu du Groenland, et ils ont des radars pour détecter un missile qui va arriver éventuellement de l'Union soviétique, vous voyez. Et donc ces gars-là, ils sont là, c'est des anciens du Vietnam, ils ont bouffé de l'anti-russe pendant longtemps. Et tout d'un coup, nous on est montés, on arrive avec nos chiens tranquillement, et on est montés en haut de la base, il y avait une quarantaine de mètres. On frappe à la porte, des gars qui attendaient un missile en face, ils voient arriver des mecs en silence avec des chiens. Et donc l'Américain présente, français Jean-Louis Etienne, et puis ils disent « Victor Boyarski, firme USSR, de l'Union soviétique ». Et là le mec, oh
il se fige.
Il se fige et il dit « I have to call Washington ». Il doit demander l'autorisation et qui a été refusée, donc on n'est pas monté dans la base. Mais pour terminer d'une manière intéressante, c'est que les Américains sont descendus avec des bouteilles, du whisky, etc.
Ah bon,
et on a fait une soirée géniale. Ils touchaient le Russe, ils touchaient le Soviétique, si vous voulez. Ils ont échangé les t-shirts, c'était extraordinaire.
Une bien belle anecdote. Alors Jean-Louis, vous avez connu et surmonté bien des périls. Le froid, la solitude, la nuit polaire, les ours. Mais ce que vous allez vivre maintenant peut vous traumatiser à jamais. Un quiz contre Eva Rock. Alors, en référence directe à votre livre « Aux arbres citoyens » aux éditions Paulsen, nous avons décidé de faire un quiz arbre.
Ah bah tiens,
hein, l'un comme l'autre, tentez de ne pas vous planter. C'est pas moi. C'est un vrai faux. Chaque bonne réponse vaut un point. Jean-Louis Etienne, attention. Les palmiers sont plus dangereux que les requins. Vrai ou faux?
Oui.
Vrai. Oui. On compte tous les ans plus de morts à cause de la chute des noix de coco,
oui,
que de personnes tuées par les requins. En moyenne, les requins, ça représente 10 à 15 victimes par an. 150 pour les noix de coco, 500 pour les éléphants, 5000 pour les scorpions, 10 000 pour les serpents. Vous nous faites le serpent, Nicolas Carreau?
Pire que le serpent. Qui fait le plus de morts dans le monde?
Je ne sais pas.
Le moustique.
Le moustique, bien sûr, le palu. Eva Rock, en 2010, 27 000 arbres ont été abattus pour répondre à la consommation mondiale de papier toilette. Vrai ou faux? 27 000 arbres.
Rien. Alors là, ah bah non, c'est faux, ça doit être beaucoup plus que ça, non?
Bah non. Bon, vous avez faux.
Oui, c'est faux. C'est
27 000 arbres. La consommation de papier toilette augmente chaque année. Vous avez un très bon transit, Eva.
Ça dépend de l'épaisseur du papier.
Quand on a du Lotus super confort double épaisseur, voilà.
Le gars veut se faire envoyer du Lotus.
Ça, c'est du placement produit. Attention, une question, trois propositions, vous répondez ensemble. L'arbre du Ténéré était un acacia solitaire situé en plein désert du Sahara. Il fallait faire 400 km pour revoir un autre arbre. Mais en 73, il est mort. Que s'est-il passé? 1. Il a été remplacé par une supérette. 2. Il a brûlé à cause des Maliens qui ont fait un barbecue. Ou 3, il a été renversé par un camionneur libyen bourré.
Mais vous le racontez dans le livre, c'est
3.
Ça, hein, oui.
Oui, c'est un camionneur qui l'a renversé, oui. Oui.
Note celui qui me parle le quiz, bien lire le bouquin de Jean-Louis Etienne. La 3, effectivement, bonne réponse collective, le chauffeur était manifestement ivre en 1969.
Mais vous imaginez un arbre au milieu du désert où il n'y a rien, et il avait cogné sur l'arbre.
Et l'arbre mort est maintenant dans un musée dans la capitale nigérienne. À la place, il y a une sculpture japonaise. Là, allez comprendre, on ne sait pas pourquoi. Jean-Louis Etienne, les olives noires et les olives vertes, j'espère que c'est pas dans votre livre, viennent du même arbre.
Du même arbre.
Ah, oh, mais vous le savez,
mais oui, mais c'est trop facile pour Jean-Louis Etienne, oui, il connaît tout sur les arbres.
Oui, les niçoises, les olives, tu connais.
Mais oui, normalement. Effectivement, elles viennent du même arbre. Ils ne sont pas cueillis au même moment, entre septembre et novembre pour les vertes. En janvier pour les noires, ces dernières sont plus riches en huile.
Même ça, je le savais.
Eva Rock, le site, un site dont je ne connaissais pas l'existence avant ce quiz, Pornhub, milite pour les arbres, car pour 100 vidéos visionnées, ils plantent un arbre et ils ont lancé une marque de Kleenex en fibre recyclée. Vrai ou faux?
Eh bien, je dirais vrai.
Vous diriez vrai?
Ouais.
Eh bien, vous avez raison.
Ouais.
Mathieu Charrier est étonné, mais oui, est-ce du marketing? En tout cas, le géant de l'industrie pornographique s'est également engagé pour la sauvegarde des animaux en diffusant de fausses sextapes avec des déguisements de pandas. C'est pas mal fait, mais on reconnaît quand même Eva Rock sur les vidéos. Qui remporte le quiz? C'est Jean-Louis Etienne remporte le quiz. Et est-ce étonnant? Non, ce n'est pas étonnant puisqu'il publie « Aux arbres citoyens » aux éditions Paulsen. Jean-Louis Etienne passe l'après-midi sur Europe 1. Europe 1.
À suivre, que vous soyez mégalo-patriote ou républicain, ou mégalo-patriote et républicain, vous allez adorer cette nouvelle possibilité qui peut être aussi un magnifique cadeau pour votre belle-mère Jacqueline. Une entreprise propose de réaliser un buste de Marianne avec votre propre visage. Mathieu Charrier a déjà reçu le sien, il a visiblement été très ému du résultat.
Oh.
Et si la prochaine Marianne, c'était vous ? Explication juste après Raphaël et sa caravane sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
L'équipée sauvage.
Caravane, c'était Raphaël sur Europe 1.
L'équipée sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, 2 heures pour comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire. Et je sens qu'on ne va pas pleurer au moment de découvrir le sujet de notre décrochage régional quotidien. Longtemps, la figure de Marianne a été sacrée. Autour de cette table, la seule à l'avoir incarnée dans le cadre d'un podcast historique peut en témoigner.
Ah, le cochon ! Qu'on lui fasse penser, il a envie de fuir !
Aujourd'hui, dans Régional Géographique, nous prenons la direction du Sud-Ouest pour découvrir une entreprise qui propose de nous livrer des bustes de Marianne à notre effigie. Je me disais aussi qu'il manquait quelque chose dans mon salon. Bonjour Stéphane Place.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
C'est une société de Mérignac à côté de Bordeaux qui est capable de créer ces nouvelles Marianne.
Oui, en fait la commande elle est venue du magazine Marie-Claire qui a voulu repenser ce symbole, sortir un peu des seuls critères beauté, célébrité. Et donc le magazine a choisi 5 nouvelles Marianne au parcours et aux engagements impressionnants. Ginette Colinka, survivante du camp d'Auschwitz-Birkenau, Aurélie Dupont, danseuse étoile, la championne du monde de boxe Sarah Ouramoun, la navigatrice Marita Barly ou encore Martine Monteil, vous savez, la commissaire divisionnaire qui a dirigé la brigade criminelle du 36 quai des Orfèvres. Bref, de grandes dames et de magnifiques Marianne grâce à l'impression 3D, la spécialité de cette entreprise girondine, DL Additive, que dirige Raphaël Darmon.
On a demandé à ces personnes d'être réunies au même endroit sur une journée pour les scanner en 3D, sur le même principe qu'un scanner pour scanner un document, pour pouvoir ensuite fabriquer les Marianne. Ça a duré entre 45 minutes et 1 heure de temps pour faire les différentes prises d'images. En fonction des technologies qu'on utilise, il y a différentes matières, donc le coût n'est pas le même, le temps de fabrication n'est pas le même non plus, donc pour le moins cher, on va être en gros, on va être à 200, peut-être 250 euros, et puis sur une Marianne avec un meilleur rendu, un meilleur état de surface, on va être à 1500, 1600 euros à peu près.
Finalement, chaque mairie pourrait dire, nous on a choisi de faire notre Marianne et ce sera telle dame que le grand public ne connaît pas forcément, mais qui a marqué cette municipalité.
On peut tout à fait envisager, effectivement, de faire de la pièce unique, c'est le principe de l'impression 3D.
Est-ce que des particuliers, à un moment, pourraient se dire, et pourquoi pas, est-ce que je peux commander une Marianne à l'effigie de ma maman ou de ma sœur?
Oui, c'est possible. Après, c'est une question de budget.
Stéphane, si j'en prends 3, parce que j'ai envie de mettre à 3 endroits, il y a mon salon, il y a ma salle à manger, et dans mes toilettes, j'aimerais un buste d'Eva Rock.
Ah oui,
bien sûr, moi aussi, normal.
Est-ce qu'il me faut un prix?
Ah ça, je sais pas, il faudra leur demander et négocier, Mathieu. Je suis sûr que vous êtes très fort en la matière.
J'adore négocier.
En tout cas, ce qui est génial, et je le dis à ma mère, comme ça, juste en passant, c'est qu'on peut effectivement adapter la Marianne au visage que l'on veut. Voilà, on peut même mettre peut-être des
hommes.
Des hommes, exactement. Et pourquoi pas une Marianne avec une grosse barbe, je sais pas, un type assez grand, je sais pas. Je peux penser comme ça spontanément, mais c'est possible.
Ça serait beau.
En Marianne avec des seins.
Et avec le bonnet phrygien.
Ça m'irait tellement bien. Merci beaucoup Stéphane Place pour cette découverte insolite.
Europe 1.
L'équipée sauvage s'apprête à entrer dans sa deuxième phase, la compétition des meilleurs journalistes d'Europe 1 bat son plein. 2 nouveaux concurrents vont nous rejoindre. Je rappelle les règles. Comme au full contact, tous les coups sont permis, y compris en dessous de la ceinture. Attention tout de même, l'humour qui imprègne notre émission est un humour bienveillant. On rit avec, jamais contre, sauf Eva Rock qui bénéficie d'un statut dérogatoire. Dérogation qui vaut aussi pour nos invités comme Claudia Tagbo hier. Pris en sandwich entre les 2 plus grandes humoristes du moment, Claudia Tagbo et Eva Rock. À suivre, si vous pensez que les rivières volantes n'existent que dans les contes de fées et que le crunch est un chocolat au lait avec des pétales de maïs soufflés dedans, comme dirait les ricains, think again. À tout de suite.
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
Vous recherchez l'excellence journalistique. Couplé à un sens aigu de l'autodérision, vous souhaitez également vous informer et vous divertir simultanément. Eh bien, ça tombe bien que vous ayez trouvé la fréquence d'Europe 1. Voici l'équipée sauvage. 2 heures d'une lutte sans merci entre les meilleurs journalistes de la station au service de votre culture G. 2 heures aussi pour apprendre à mieux connaître un invité grâce à des interviews de qualité. Mon seul point faible, mon chat noir, je préfère prévenir Jean-Louis Etienne qui nous accompagne aujourd'hui, c'est le nombre d'enfants des invités. On peut parler là de malédiction. Oui, ou d'incompétence, me signale-t-on en régie. Oui.
Vous avez déjà 3 enfants, si je ne m'abuse, c'est ça?
Non, j'en ai qu'une seule.
Vous avez 2 enfants, ils ont l'âge de lire Happy Sex ou...
J'en ai 5.
Abdelmalik, on sait que vous êtes papa, vous avez 2 enfants, si je ne m'abuse. 3.
On en manque toujours, hein. Ouais.
Combien d'enfants Jean-Louis Etienne a-t-il? Les paris sont ouverts, jouez avec nous au 39-21. Ah. Tiens, c'est qu'il a déjà 17h sur Europe 1.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue 2 heures pour détendre vos zygomatiques tout en stimulant vos neurones. Allez hop! Je ne m'adresse pas à vous, chers auditeurs, je ne me permettrai jamais, mais à nos valeureux journalistes de la rédaction qui désormais chaque après-midi se tirent la bourre au service de votre culture G. Un seul sera élu chroniqueur du jour sous l'œil attentif mais implacable de notre invité arbitre aujourd'hui. C'est un aventurier de l'extrême qui nous accompagne. Himalaya, Patagonie, Pôle Nord, Pôle Sud, il a tout connu.
C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp.
Jean-Louis Etienne est avec nous. Ensemble, on continue de parler de son expédition à venir, Polarpod, et son livre « Aux arbres citoyens » aux éditions Paulsen. Le temps simplement, Jean-Louis, de vous présenter nos deux derniers journalistes en compétition aujourd'hui. À ma gauche, déjà sujette au trac, elle est cet après-midi complètement tétanisée de rencontrer son idole.
Parce que maintenant et surtout au pôle Nord.
Oui, mais gardez-en sous la pédale. Voici Anne Le Gall, notre expert environnement, qui va nous parler aujourd'hui des rivières volantes. Mais qu'est-ce que vous avez pris, Anne ?
Du cannabis.
C'est bien ce qui me semblait, Anne. Qu'est-ce qui se passe ? Des rivières volantes, c'est-à-dire ?
Rivières volantes, oui, je vais vous expliquer. Alors Jean-Louis Etienne le sait, que les arbres transpirent beaucoup et que cela crée des rivières.
Ils ne sont pas les seuls, j'ai envie de dire.
Tout ceci est scientifiquement documenté, c'est très intéressant.
Et ça se passe en Amazonie. On va voyager avec vous aujourd'hui. À ses côtés, Jean-Louis Etienne, un journaliste qui, lui, vous suit un peu moins qu'Anne Le Gall. Il est plus sport que nature quand même. Jérôme Lacroix, vous connaissez un peu les exploits de Jean-Louis Etienne. Vous savez grâce à quel animal il a traversé le pôle Nord ?
Je dirais un petit lapin.
Un petit lapin ? Non, des chiens de traîneau, Jérôme, des huskies. Bon, bref, avec quel sujet comptez-vous vous rattraper aujourd'hui ?
Je vais vous expliquer que ce jour, jeudi 10 octobre 2019, marquera l'histoire du sport. On ira en Iran, où un grand nombre de femmes vont pouvoir ce soir assister à un match de football. Et ça, c'est historique.
C'est historique. C'était il y a 40 ans, je crois, la dernière fois qu'elles avaient pu assister à un match.
En si grand nombre.
Quel sujet vous intéressera le plus ? Vous votez via Twitter, sachant que la voix de notre invité comptera triple en fin d'émission. Jean-Louis Etienne nous accompagne aujourd'hui. Un nom qui vous évoque forcément beaucoup de choses. On vous a tendu un micro dans la rue. Voici non pas un micro-trottoir, toujours monté de manière trop flatteuse pour l'invité, mais un micro trop trash. C'est comme le micro-trottoir, mais on n'a pas censuré.
Jean-Louis Etienne.
Monsieur Pôle Nord, Pôle Sud, non, c'est pas lui ? Si, c'est lui.
Mais surtout, il s'est occupé très tôt des bouleversements de notre planète et des bouleversements climatiques à partir de zones où personne n'allait.
Médecin de formation et sensible au devenir de notre planète qui ne va pas très bien actuellement, et notamment en ce qui concerne le Grand Nord. Hein.
Le Pôle Nord, c'est là où il fait froid.
Jean-Louis Etienne, les chiens, non, c'est pas ça, les chiens de traîneau, c'est pas lui ?
Ouais, oui, Vanier. J'ai mis Etienne dans le Vanier, quoi.
Il y a dans ce micro-trottoir, il y a une phrase qui fait réfléchir. Le pôle Nord, c'est là où il fait froid. Au rythme où vont les choses, Jean-Louis Etienne, on devra bientôt dire le pôle Nord, c'est là où il faisait froid.
Effectivement, ça se réchauffe, mais la banquise, le pôle Nord est au milieu d'un océan. Un océan gelé, recouvert par une couche de glace qu'on appelle la banquise. Et on voit, c'est vrai, à la fin de l'été, tous les ans, que la banquise régresse. Elle reste en surface, elle reste en épaisseur. Ce qui disparaît, c'est la glace pluriannuelle, hein, ce qu'on appelait les neiges éternelles, qui sont en train de disparaître. Et c'est de la glace de l'année qui vient, et donc elle est beaucoup moins épaisse. Et c'est vrai qu'elle va avoir de plus en plus tendance à disparaître à la fin de l'été. Donc la banquise disparaît. Mais à la fin de l'été, elle reviendra toujours en hiver, parce que c'est la nuit polaire, il fait froid. Mais elle sera moins épaisse, plus fragile.
Eva Rock ?
Est-ce que ce réchauffement climatique met en péril vos expéditions ? C'est-à-dire que les expéditions que vous faisiez il y a 30 ans, vous ne pourriez plus les faire aujourd'hui ?
Alors, quand j'ai traversé l'Antarctique, on était 6 avec des traîneaux à chiens, donc, on est parti du bout de la péninsule antarctique, celle qui est en face le Cap Horn, hein, en géographie. Eh bien, les 600 premiers kilomètres de plateforme de glace sur lesquels on était ont disparu.
Une part en 2000
et une part en 2002. Les 600 premiers kilomètres ont disparu. Donc, c'est vrai qu'on ne pourrait plus refaire l'intégralité de la traversée qu'on a faite.
Qu'est-ce que vous dites aux climato-sceptiques ? Il y en a encore, peut-être même parmi nos auditeurs, vous qui connaissez bien les pôles, qui sont donc le baromètre, quelque part, du réchauffement climatique de la planète. Est-ce que c'est l'argument ultime qui prouve que...
Le réchauffement climatique, on en a fait un sujet de conversation populaire. On s'est planté. Il fait froid au mois de juin. Deux personnes vont acheter la baguette de pain. Salut, ça va ? T'as vu le temps qu'il fait ? La santé et le temps qu'il fait, les deux mamelles de la conversation. Il fait froid au mois de juin, l'autre il va dire « T'y crois, ton réchauffement climatique, t'as vu, un temps juin, on se caille ». Ça ne se perçoit pas. La planète s'est réchauffée de 1 degré en un siècle, un degré en un siècle, c'est quelque chose qui ne se perçoit pas. C'est ça, c'est une mesure scientifique, il n'y a pas de conversation là-dessus. Elle a pris un degré exactement comme nous, on est à 37 quand ça va bien.
Et à 38, on doit s'inquiéter.
À 38, on doit s'inquiéter, c'est pareil.
Eva ?
Quel regard vous portez sur la jeune Greta Thunberg qu'on entend beaucoup et sur les collapsologues en général qui ont une vision très négative de l'écologie et de ce qui peut nous arriver ?
Alors, Greta a provoqué un véritable mouvement planétaire, si vous voulez. Elle a enfoncé le clou, effectivement, de la situation climatique, parce que c'est une maladie chronique, vous voyez, le réchauffement climatique. C'est une maladie chronique. Et si on ne fait rien, les maladies chroniques, à un moment donné, ça se complique sérieusement. On est là aujourd'hui, on vient de l'évoquer, la Terre, elle a 38, elle a pris un degré. 39, c'est un degré de plus. La quantité d'énergie dans notre corps pour passer de 38 à 39, c'est énorme. Et la planète, c'est pareil. Donc, Greta alerte le plus. Le problème est compliqué. La réponse, elle est multifactorielle et elle est liée à l'énergie. Donc, quand on voit la quantité d'énergie que nous consommons tous à l'échelle de la planète, eh bien, il faut enfoncer, effectivement, il faut faire de la pédagogie en permanence, mais c'est une réalité. Et il est urgent d'agir, de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
De la pédagogie, il en fait dans son nouveau livre « Aux arbres citoyens » chez Paulsen. Il prépare une incroyable expédition en Antarctique. Jean-Louis Etienne est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
Eva Roque, Jérôme Lacroix et Anne Le Gall sont à mes côtés et bouclons nos ceintures car justement Anne va nous entraîner loin, très loin, en Amazonie, au pays des rivières volantes. Notre invité, l'aventurier Jean-Louis Etienne, connaît bien l'Amazonie et ses dangers, même si là-bas, le danger c'est plutôt lui.
J'ai aussi entendu dire que t'avais été mordu par un cobra royal.
Oui, c'est vrai, oui. Mais après 9 jours d'atroces souffrances, il a fini par mourir.
Sacré Jean-Louis, à tout de suite.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe sauvage, 16h-18h sur Europe 1, l'équipe sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, ce que je vais vous dire ne m'étonne pas de vous. L'équipe sauvage continue en présence d'un aventurier de renom aujourd'hui, Jean-Louis Etienne, venu nous présenter son livre « Aux arbres citoyens » aux éditions Paulsen. Avec vous Jean-Louis, on parle évidemment beaucoup du pôle Nord. Le pôle Nord qui a inspiré bien des rêves.
Je me tape des ours polaires.
Ou même des fantasmes. Des fantasmes aussi en ce qui concerne Eva Roque. Mais l'heure est venue. Vous n'avez qu'à ne pas prononcer des phrases saugrenues.
C'est pas possible.
Mais l'heure est venue de mettre le cap au sud sur l'Amérique latine. Oui, oui, mais plus précisément, l'Amazonie. Oui, c'est la limite de notre bibliothèque sonore à Europe 1. L'Amazonie où nous entraîne notre spécialiste environnement, Anne Le Gall. Anne qui adore travailler avec moi pour une raison simple, certainement mon professionnalisme.
Ça consomme énormément d'énergie, effectivement, en plus.
Pardon, j'ai une relance, c'est ça, Anne ?
Absolument.
Je ne sais pas où elle est, donc je vais chercher, mais...
C'est bien joli tout ça ?
C'est là. C'est bien joli tout ça. Bon, alors Anne, aujourd'hui j'ai votre feuille, je la prends là, on est bien, j'ai votre feuille, vous pouvez vous lancer sans crainte. Vous avez choisi de nous parler des rivières volantes.
Voilà, je sais que vous pensez que je suis perchée. Jean-Louis Etienne sait que je ne suis pas si perchée que ça. Les rivières volantes, ça va donner lieu à une exposition à Lausanne, en Suisse.
Ah,
chez
Lausanne.
Vous, Mathieu, à partir de ce week-end. Exposition à l'initiative d'un explorateur suisse, Gérard Moss. Gérard Moss vit au Brésil, il est pilote d'avion. Je l'ai eu au téléphone et il m'a raconté qu'en 2006, quand il survolait la forêt amazonienne, il s'est retrouvé dans des masses de nuages particulièrement humides. Ça l'a intrigué et après enquête auprès de différents scientifiques, il a réalisé que dans le ciel au-dessus de l'Amazonie, il circule plus d'eau que dans le fleuve Amazone. Donc on parle bien de l'Amazone, plus grand fleuve du monde. Fleuve qui, je vous le rappelle, débite 200 000 mètres cubes à l'estuaire. Fleuve qui débite 17 milliards de tonnes d'eau.
C'est bien de nous le rappeler parce que personnellement j'aurais dit 198 000 plutôt mètres cubes, enfin de mémoire.
Et ben voilà, en fait, ça fait toujours moins que les 20 milliards de tonnes d'eau qui circulent dans le ciel au-dessus de l'Amazonie. C'est cela qu'on appelle donc les rivières volantes.
Mais enfin, Anne, elle vient d'où cette eau ?
Elle vient de la transpiration des arbres.
On aurait dit un peu Jamie dans ses passations.
C'est
mais
bien
dis donc,
joué.
Jamie, elle vient d'où cette eau ?
Elle vient d'où ? Eh bien, elle vient de la transpiration des arbres.
La transpiration
et
des
oui,
arbres.
Et oui, un arbre, un seul arbre en Amazonie, Jean-Louis Etienne le dit d'ailleurs dans son livre, un seul arbre peut transpirer entre 300 et 1000 litres d'eau par jour. C'est l'équivalent de 2 à 6 baignoires d'eau. Hein, pour vous donner une petite idée de cette transpiration.
Je vais moins culpabiliser quand je vais prendre mon bain. Alors, si les arbres prennent aussi les bains, c'est bon.
Ça s'appelle l'évapotranspiration. Vous l'expliquez très bien, Jean-Louis Etienne. Ça permet d'un côté, d'une part, de faire monter la sève tout en haut des cimes.
Oui, l'arbre, il a besoin d'eau. Et donc, il la prend dans le sol par les racines. Il y a ce qu'on appelle l'osmose. Et puis après, il y a la capillarité dans le tronc. Et après, c'est la transpiration. On parle de l'Amazonie, mais des rivières flottantes, mais dans une forêt de hêtres de chez nous en France, une forêt de hêtres, transpire 25 tonnes d'eau par jour.
Donc il y a les rivières volantes en France aussi ?
Ben oui, wow. Exactement. Ce qui fait que c'est des rivières violentes, volantes.
Des rivières violentes.
Parce que c'est l'immensité qui donne ça, si vous voulez. Donc tout ça pour souligner le rôle essentiel que jouent les arbres dans l'hygrométrie, dans la régulation de l'eau de l'atmosphère.
Et c'est au Brésil, ça a un rôle particulier puisque ça va permettre d'irriguer les cultures, puisqu'après, évidemment, ces rivières se déplacent. Donc il y a 40% de l'humidité de Sao Paulo qui est issue de ces rivières volantes. Ça permet de cultiver une grande partie des terres au Brésil et dans les pays alentours. Et dans le Mato Grosso, donc à 2000 km de l'Amazonie, si on a 3 récoltes par an, c'est dû à ces rivières volantes. Donc, on ne découvre pas le phénomène puisque le terme de rivière volante date des années 70. C'est un terme qui a été inventé par des Américains. Mais si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'avec la déforestation, ces rivières volantes sont menacées. La forêt amazonienne a perdu depuis janvier, donc depuis 9 mois, 500 millions d'arbres. Alors, le calcul est simple. 500 millions par, mettons, 400 litres de transpiration d'arbres en moyenne, eh ben, ça fait 20 milliards de litres d'eau qui ne partent plus dans le ciel. C'est l'équivalent en piscine olympique, je ne sais plus, je l'avais noté, je crois que c'est 7000 piscines olympiques qui, donc, chaque jour, n'irriguent plus les terres au Brésil et aux alentours de l'Amazonie. Donc, d'où l'intérêt de cette exposition sous la houlette de la Fondation Aquatis, exposition à Lausanne qui va durer 8 mois sur les rivières volantes et qui servira aussi à la reforestation. Ça devrait financer la plantation de 3 millions d'arbres.
Tous à Lausanne, je vous héberge.
Tous à Lausanne,
pas
voilà.
Pas de problème. Merci Anne Le Gall. Votre chronique aura-t-elle séduit notre invité ? Moi j'ai une question pour Jean-Louis Etienne et c'est une question qui sera en lice pour le prix Pulitzer. Alors musique. Jean-Louis, quitte à partir à l'aventure, pourquoi partir là où il fait froid quand on peut partir là où il fait chaud ?
Vous attendez ma réponse ?
Oui.
Je ne sais pas.
Pourquoi vous avez été fasciné par le froid
J'ai trouvé un papier dans mes vieilles archives d'un truc que j'avais écrit, j'avais 14 ans. J'avais fait une liste de matériel pour aller camper dans les Pyrénées en hiver.
Voilà. Déjà.
Donc je ne sais pas. J'ai un métabolisme basal un peu élevé. C'est-à-dire que j'ai une température du corps un petit peu élevée. Ben je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est cet attrait ?
Ben c'est ça.
Mais c'est surtout le désert qui m'intéresse.
Jean-Louis Etienne préfère le froid au chaud. C'est sur ce genre de scoop Europe 1 qu'il est bon d'envoyer un jingle.
Europe 1.
À suivre, la Coupe du Monde de rugby est lancée. La France peut-elle gagner sans Jean-Louis Etienne qui a aussi été demi de mêlée ?
J'aime me battre.
Pas sûr. En tout cas, là, coup de bol, suite à un avis de typhon, le match contre l'Angleterre est annulé. Résultat, la chronique de GG aussi, vu qu'il comptait nous parler de ce face-à-face légendaire qu'on appelle le crunch. Mais gageons qu'il saura rebondir, même si lorsqu'il a appris pour le typhon, il n'a pas pu masquer son agacement.
Mais quel connard !
Mais il n'y a pour rien ce typhon. Après Délice in Extremis, l'équipe sauvage vous propose donc chronique in Extremis, juste après James Blunt, Cold, sur Europe 1.
L'équipe sauvage sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe sauvage, 2 heures pour départager les meilleurs journalistes d'Europe 1 qui guerroient au service de votre culture G. 2 heures également émaillées de moments de vérité rares. Quand une star tombe le masque de l'artiste en promo pour nous révéler, au détour d'une hésitation, ce qu'elle pense vraiment du film culte qui a inspiré la comédie musicale dans laquelle elle joue, comme Claudia Tagbo hier. Ghost, le musical, au théâtre Mogador. Déjà Claudia, est-ce que vous étiez, vous, fan du film ?
Ouais.
Criez Claudia. Cet après-midi, c'est l'explorateur Jean-Louis Etienne qui nous accompagne. Ensemble, on parle de son dernier livre « Aux arbres citoyens » paru aux éditions Paulsen. Un livre où vous nous incitez, Jean-Louis, à nous reconnecter avec la nature. Et c'est vrai que personnellement, alors je sais que c'est peut-être moi qui suis particulièrement nul, mais je pense que c'est symptomatique quand même de notre époque. Quand je me balade en forêt avec mon fils le week-end et qu'il me demande « Papa, c'est quoi cet arbre ?» ou bien « Papa, c'est quoi cette plante ?» Et dans 99% des cas, je suis infoutu de lui répondre. Alors qu'on le sait, dans les sociétés dites primitives, tout adulte connaît les noms de milliers de plantes. Moi, je suis obligé de regarder une appli qui s'appelle un peu Shazam des plantes pour lui dire ce que
plante
c'est.
Plante Net.
Ben, c'est un peu terrible, ça.
C'est pas la peine de connaître tout pour l'aimer. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, il y a deux façons de se promener dans la forêt. Soit vous y allez en connaisseur, effectivement. Moi, ce que j'aime bien quand je me promène avec des naturalistes, c'est quand ils commencent à me raconter l'histoire. Comment cette plante-là avait cet insecte. Vous voyez, je veux dire, c'est cette dynamique qui est intéressante, beaucoup plus qu'une culture livresque du nom de chacune des plantes.
C'est aussi une connaissance, du coup, encore plus complexe de connaître les...
Ah oui, mais c'est ça qui est intéressant, parce que la biodiversité, ce n'est pas la somme d'une multitude d'espèces, c'est comment elles cohabitent entre elles. Et quand vous entrez dans l'histoire de la nature, c'est là que vous vous rendez compte qu'on a intérêt à garder tout le monde. C'est une grande mutuelle, la nature. J'ai dit, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une conférence pour le Crédit Agricole, et donc il y avait le directeur qui était là, je dis, vous connaissez la plus grande mutuelle du monde? Il me regarde, mais d'un air dire, c'est la nôtre. Non, c'est la nature. Dans la nature, toutes les espèces ont la vie en commun et cotisent de leur mode de vie à la fin de leur corps, si vous voulez. C'est comme ça que ça fonctionne. Et nous, on se gave un peu quand même.
Hein. Ça, c'est clair. Alors, le gros problème de la nature quand même, Jean-Louis, c'est un problème indépassable, c'est que dans la nature, il n'y a pas Netflix. Or, selon une étude de l'Université d'Oxford, on perd tous en moyenne désormais chaque soir 17 minutes à s'engueuler avec son conjoint pour décider ce qu'on va regarder sur Netflix. Heureusement, il y a désormais 17 minutes de gagner. Et Varrock, qu'est-ce qu'on regarde sur Netflix ou toute autre plateforme
eh bien,
de VOD à laquelle
Netflix,
on est abonné?
C'est pas sur Netflix, non, c'est sur le site d'Arte ou ce soir en direct à 20h50 sur Arte, mais c'est déjà donc disponible sur le site. C'est une nouvelle série française qui s'appelle MeToo. Alors je vous embarque dans une zone pavillonnaire d'une ville de province un peu façon...
MeToo, pas MeToo, hein. Moi j'ai entendu MeToo.
MeToo, oui. Embarquement donc dans une zone pavillonnaire façon Desperate Housewives. Et d'ailleurs c'est une femme, le personnage principal de cette fiction, elle s'appelle Elvira. Alors elle s'ennuie dans la vie, enfin elle s'ennuie sur un plan psychologique parce que ses journées sont bien bien occupées, charge mentale XXL pour elle, entre son boulot dans un bureau d'assurance avec un chef odieux et puis sa famille. Elle est coincée entre un mari infidèle et oisif et puis trois enfants dont deux ados en quête d'identité, autant vous dire qu'elle a du boulot. On la retrouve chez le médecin, elle a fait une mammographie et elle attend les résultats.
Cette graisse a l'aspect d'un nodule, la forme d'un nodule, mais elle est absolument inoffensive.
J'ai pas compris.
Votre corps a fabriqué des fausses boules cancéreuses. Un peu comme de la bière sans alcool, si vous voulez. Voilà, on se fait une vérif dans 6 mois, juste pour rire.
Voilà, juste pour rire, vous avez bien entendu, il n'y a rien. Elle n'a rien, c'était un examen de routine, c'était que le stress et un manque évident de repos. Donc, tout va bien. Pourtant, le soir, question du mari et réponse d'Elvira.
C'est bizarre, qu'est-ce que ça ?
Une tumeur.
Quoi ?
Tu te souviens que j'avais rendez-vous chez le radiologue ce matin ?
Oui, c'est vrai, oui.
Les résultats sont mauvais.
Eh oui, horrible mensonge de la part d'Elvira qui fait croire qu'elle a un cancer. Et alors là, tout va changer dans sa vie parce que le regard de son mari et de ses enfants va être beaucoup plus agréable, beaucoup plus gentil à son égard. Les enfants vont faire leurs devoirs par exemple et le mari va essayer de plus être infidèle. La famille qui était au bord de l'explosion va se souder derrière donc la maladie imaginaire de la mère avec situation rocambolesque évidemment.
On reste sur le ton de la comédie?
On
ou
reste
est-ce
sur
que
le ton de la comédie, ouais, tout à fait. Non, c'est le ton de la comédie avec voilà, son lot de rigolade, mais on aborde quand même avec intelligence, la place des femmes dans la société, puis surtout à quel point nos vies sont rythmées par des mensonges, petits ou grands mensonges, avec une formidable Marina Hans dans le rôle d'Elvira que vous venez d'entendre et Mathieu Demi dans le rôle du garçon, du mari en l'occurrence. Je vous conseille très vivement cette série française qui s'appelle MeToo.
Et bien voilà, 17 minutes de gagner les amis, merci qui ? Merci Eva Rock.
Europe 1.
À suivre, il avait préparé une formidable chronique sur l'histoire du crunch, mais le match France-Angleterre de rugby ayant été annulé pour cause de typhon, Jérôme Lacroix, notre expert sport, a été obligé de jeter son sujet à la poubelle.
Voilà, que c'est relou. Quel temps on perd.
Heureusement, Gégé est un battant et il est dans le travail comme dans l'amour. Il sait rebondir et se montrer créatif pour toujours surprendre ses partenaires.
Un coup dans le sens des aiguilles, un coup dans l'autre.
Adieu le rugby, bonjour le foot. Ce soir, match Iran-Cambodge pour les qualifications du Mondial 2022. Pour la première fois depuis 40 ans, 3500 femmes ont pu acheter des places. Ça tout de suite.
16h, 18h,
l'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Chers auditeurs et auditrices, imaginez-vous au sein d'une mêlée dans un match de rugby, encerclé par 20 gaillards musculeux et trempés de sueur.
Ah oui, oh putain.
Mais non, non, tu n'y vas déjà. Bienvenue dans l'équipe est sauvage. 2 heures d'un pugilat sans pitié entre les meilleurs journalistes d'Europe 1 qui se surpassent pour vous offrir la meilleure info, l'histoire la plus dingue, afin de remporter le prestigieux titre de chroniqueur du jour sous l'œil de notre invité, l'aventurier Jean-Louis Etienne. Jean-Louis, j'ai lu que dans votre jeunesse, vous aviez été demi de mêlée à Castres. C'est vrai ?
Oui, j'étais demi de mêlée au Castres Olympique, mais en junior B, junior A, j'étais même sélectionné des Pyrénées.
Waouh !
J'ai eu un problème de santé, j'ai dû m'arrêter, ça a été une frustration énorme.
Et vous suivez toujours ?
Oui, je suis
toujours. La Coupe du Monde ?
Ah oui, oui. Bon, cet ouragan fait qu'en fait, on va faire match nul contre l'Angleterre.
Oui.
C'était inespéré.
C'est le meilleur score qu'on pouvait obtenir.
Ça. Au final, c'est comme s'il y avait eu 0-0. Ben deux points pour chaque équipe. Statu quo au classement du groupe. On est deuxième. On prendra très certainement les Gallois en quart de finale le 20 octobre.
Oui. Ah.
Voilà. Alors, justement, ça tombe quand même mal pour lui, car connaissant votre passé rugbystique, Jérôme Lacroix, vous avez concocté une chronique sur l'histoire des France-Angleterre, ce qu'on appelle le crunch. Hélas, le vilain typhon japonais s'en est mêlé et le match prévu samedi, vous l'avez dit, est annulé. Jérôme a donc concocté en urgence
l'urgence un nouveau sujet sur le foot. La bonne nouvelle, c'est qu'en travaillant dans l'urgence, il n'a certainement pas eu le temps de truffer son papier de ces jeux de mots foireux qu'il affectionne et qu'Evaroc ne comprend même pas. Souvenir.
Eh bien, ces deux-là ont fait la peur face à la paire roumaine Niculescu Alep.
Fait la peur ? C'est marrant ça comme expression.
C'est un petit jeu de mots.
Oui, mais non, mais c'est pas un jeu de mots en fait.
Normalement, c'est la paire. Ces deux-là font la paire.
C'est deux mots. Ah oui, d'accord.
Il faut lui sous-titrer.
Jérôme Lacroix. C'était très tôt le matin.
Vous nous parlez d'un match historique de foot.
Ce jeudi 10 octobre marquera l'histoire du sport et même au-delà. Parce que ce soir, dans le grand stade Azadi de Téhéran, on pourra entendre ça. Des voix d'hommes et de femmes d'Iran mêlées dans un stade de football pour encourager la sélection nationale pour Iran-Cambodge en éliminatoire du Mondial 2022. Pour la première fois depuis 40 ans en Iran, 3500 femmes seront dans le stade. Elles y ont été autorisées parce qu'en Iran, assister à un événement de sport à côté d'autres spectateurs hommes, quand on est une femme, c'est interdit. Cela a commencé peu de temps après la révolution iranienne en 1979. Les femmes peuvent aller avec des hommes au cinéma, au théâtre, au concert. Mais pour le sport, disent les autorités iraniennes, les femmes doivent être protégées de la grossièreté, voire parfois de l'excessive excitation masculine lors des événements sportifs.
Alors aujourd'hui, c'est un signe d'ouverture du régime. À quoi c'est dû ?
C'est la FIFA, la Fédération internationale, qui a fait pression sur le régime iranien pour qu'il ouvre en une certaine quantité cette rencontre aux femmes. Après un drame, Sahar Khodayari avait 29 ans le mois dernier. Elle s'est immolée par le feu devant le tribunal de Téhéran. Elle craignait de se faire condamner après son arrestation. Elle s'était introduite parmi les supporters d'un match de foot immense et moins en Iran et dans le monde entier. Pourtant, cette jeune femme, elle pensait ne pas être identifiée dans ce stade parce que, comme un certain nombre d'Iraniennes fans de foot ces derniers mois, elle s'était déguisée en homme pour rentrer au stade. Il faut lire et entendre les témoignages de ces femmes qui se strappent les seins, des bandes serrées jusqu'à la douleur pour aplatir la poitrine. Et oui, parce qu'à l'entrée des stades, on est fouillé. Les cheveux coiffés en chignon, cachés sous un chapeau, chemise, veste, pantalon d'homme, fausse barbe, etc. Il faut lire aussi les témoignages de celles qui ont été reconnues dans les tribunes des stades par d'autres hommes, parce que les postiches lâchent parfois, des hommes qui alors forment autour de ces femmes vite des cordons de protection pour les cacher pendant qu'elles réajustent le camouflage.
Et parce que beaucoup d'Iraniens militent en faveur de la présence des femmes dans les stades. Hein.
Mais oui, le président Rouhani, plutôt modéré d'ailleurs, n'y est pas opposé. L'interdiction, elle n'est pas inscrite dans la loi, dans la constitution iranienne. Mais c'est le poids de la tradition. Alors, faut tout de même préciser, ce soir, 3500 femmes, un nombre exceptionnel pour l'Iran, mais le stade compte 83 000 places, et elles ne seront pas mélangées aux hommes, mais dans une tribune 100% féminine. Ces 3500 tickets d'âme vendus sur Internet, ils sont partis en quelques heures, finissant alors sur les mots de Raha Pourbakhsh, elle est journaliste sportive, et depuis des années, elle doit couvrir tous les matchs pour son travail. Devant sa télé, elle sera ce soir au stade en tant que spectatrice. Elle dit « La dernière fois que je suis rentrée dans le stade Azadi, c'était il y a 25 ans environ avec mon père. J'avais 7 ans. Aujourd'hui, ce sera la première fois que j'y vais en tant que femme. J'arrive toujours pas à y croire. Après avoir travaillé en tant que journaliste sportive pendant toutes ces années, moi je regardais tout à la télévision. Je vais le vivre aujourd'hui en personne et voir enfin tout ce qui se passe dans les tribunes. »
Merci Jérôme Lacroix pour ce sujet. Est-ce que c'est possible de poser une question vache maintenant ? C'est possible. Anne Le Gall, vous avez une question vache pour Jérôme.
C'est très compliqué face au courage de ces femmes qui affrontent la tradition. Bon, mais on va quand même revenir en France. Quel est le pourcentage, je ne sais pas si vous savez ça, le pourcentage de supporters femmes parmi les fans de foot en France ?
Sincèrement, non, je ne connais pas le pourcentage. Mais en revanche, ce que je peux dire de manière sûre et certaine, c'est un nombre qui n'arrête pas d'augmenter. Sincèrement, maintenant, elle se structure au niveau des clubs en France.
Il y a des groupes de supporters chiffrée, femmes.
Mais je l'avoue, je ne connais pas la part des supporters hommes ou femmes.
Dites-nous, Anna, on peut deviner ?
Oui, allez-y.
Le pourcentage des supporters femmes, je dirais 30%.
40%.
Non, moi, 40%. Vous dites 40%.
Moi, je pense que c'est moins. Sport,
non, en foot. Qu'est-ce que vous dites, Jean-Louis Etienne ? Combien de femmes dans les
comme
tribunes ?
Comme il a dit 40%.
Oui, j'ai dit 40%.
Mais avec le succès du foot féminin, ça monte énormément.
Moi, j'ai un chiffre
énormément.
Qui date de l'été dernier, effectivement.
Moi, je dirais 35-40.
Moi, j'ai dit 30.
Vous n'êtes pas loin, c'est 43.
43, ouais. C'est de mieux en mieux.
43%
c'est
incroyable, hein.
Effectivement. Merci à vous, Anne, et merci surtout à vous, Jérôme. Comme dirait Mathieu Charrier,
t'as bien rebondi, mon salaud.
Mais votre chronique aurait-elle pu à notre invité ? La réponse ne va plus tarder. Europe 1. L'équipée sauvage entre dans sa dernière ligne droite, et vous aussi, chers auditeurs.
Vous avez cherché les enfants à l'école et alors que vous ouvrez la porte du garage, vous réalisez votre erreur. Vous avez une fois de plus oublié de passer faire les courses et de penser à une recette équilibrée pour ce soir. À l'arrière de la voiture, votre ado exulte et s'exclame
« On va manger des chips !»
C'est un cauchemar. Heureusement, il y a Delice in Extremis. Chaque jour vers 6h moins le quart, la recette savoureuse et équilibrée qui vous sauve la mise. A tout de suite.
Europe 1, l'équipé sauvage. 16h, 18h. L'équipé sauvage sur Europe 1. 16h, 18h. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipé sauvage se poursuit. 2 heures d'allégresse informative, un shoot de bonne humeur et de savoir.
Un petit peu de...
Non, c'est une image, Jérôme. Et surtout, la rencontre aujourd'hui des deux plus grands aventuriers français. Jean-Louis Etienne, premier homme à avoir atteint le pôle Nord en solitaire. Et Bibi, premier homme à être entré au péril de sa vie dans la salle des chauves-souris du zoo de Beauval. Je pensais que les chauves-souris étaient derrière une vitre. Je suis entré, il était tout noir et j'ai senti une aile comme ça contre moi. Jean-Louis Etienne, ça vous fait quoi de me rencontrer ? Entre aventuriers, je sens qu'on se comprend.
Non mais vous avez une énergie colossale.
Oui mais je n'ai que ça hélas, je n'ai pas la partie courage de l'aventurier. Vous aviez écrit Jean-Louis Etienne.
J'ai une question, oui. Est-ce que vous arrivez à faire des silences ?
Non, je n'arrive pas.
Vous êtes incroyable.
Non, je crois que j'ai une peur fondamentale, viscérale, du silence.
Mais c'est pas inintéressant quand même.
Vous aviez écrit sur le mur de votre chambre d'étudiant, Jean-Louis Etienne, on n'empêche pas une mouette
de prendre le large, mouettecier.
Qu'est-ce que vous dites aux étudiants qui nous écoutent et qui ont peut-être aussi des ambitions différentes de celles de leur prof ou de leurs parents ?
Il y a une chose qui m'a surpris et qui m'inquiète par moments, c'est quand je vois les jeunes qui font des manifs pour la retraite. Ça me choque. Enfin, ça me choque. C'est pas que ça me choque, mais je suis triste plutôt. Parce que mettre les voiles de tempête aux premières brises de la vie, si vous voulez, c'est un peu inadapté. Voilà. Et donc, la vie, quand même, on se la construit. On a un capital extraordinaire, il faut se faire des outils dans la vie. Je dis, on a une façon très morne de la regarder aujourd'hui. Je trouve que c'est un champ personnel de développement qui est énorme. Et la liberté, si vous voulez, on ne la gagne pas sur les autres. On la gagne sur soi, sur ce qu'on est capable de prendre comme risque, de s'imposer, de changement dans l'existence pour la construire.
Vous publiez Aux arbres citoyens, mais votre précédent livre, si je ne m'abuse, était sur l'autonomie.
Oui.
Et ça, c'est très intéressant parce que ça rejoint. Oser l'autonomie, ça rejoint ce que vous dites là. Vous trouvez qu'on est un peu trop assisté aujourd'hui, finalement. Il faut apprendre à se débrouiller par soi-même.
On se laisse assister. C'est pas qu'on est trop, on se laisse assister. C'est tellement facile, si vous voulez. Et je pense qu'on a un potentiel. On a des potentiels. J'ai écrit dans un livre précédent, j'avais écrit on ne repousse pas les limites. On les découvre. On est fait de choses que l'on ignore de soi. Ce qui est intéressant, c'est de se mettre en œuvre et éventuellement d'abandonner les choses que l'on a acquises pour de nouvelles expériences. C'est comme ça qu'on se construit et je pense qu'on va en avoir besoin puisque effectivement, les métiers changent rapidement, les compétences changent, il faut se faire des outils. Et je dis aux jeunes, l'anglais, apprenez l'anglais. Moi, j'ai appris l'anglais au collège technique de Mazamé dans le Tarn. Je partais avec un retard.
Vous devez avoir un petit accent.
Ah, mais non, mais c'était cat is an animal, repeat after me. Et forme interrogative. Is a cat an animal? Eh bien, yes. Vous voyez, c'était ça le cours d'anglais. Voilà. Donc, c'est important parce qu'il faut. C'est un outil. L'anglais, c'est pas qu'une langue, c'est un outil de travail. On multiplie par 50 ses chances de trouver du boulot.
Il publie « Aux arbres citoyens » aux éditions Paulsen. Jean-Louis Etienne est avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, la direction m'a dit « Mathieu, attention, tu dois plus dramatiser la séquence culinaire. » Ok, il est 6h moins le quart. Vous n'avez pas fait les courses pour le dîner de ce soir, vous avez faim, vous êtes en retard, vous êtes pressé. Vite, quoi, Anne Le Gall ?
On pense qu'un œuf est identique à un autre œuf. Vous allez voir qu'en fait, non.
Pas maintenant, hein, on s'en fout, on est pressé. Thank God, Delice in Extremis vous sauve la mise avec une recette rapide, simple et économique. Attention, baissez-vous ! Ouais, bon, j'en fais peut-être un petit peu trop, là. Bon, votre recette de dernière minute arrive et contiendra-t-elle de la vanille ? Je ne sais pas. En tout cas, voici Suivre le soleil, vanille sur Europe. Suivre le soleil, c'était vanille sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipé sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipé sauvage, 2 heures de bonne humeur où l'on n'oublie ni votre cerveau, ni votre estomac. Et mon cher Jean-Louis Etienne, je vous présente un aventurier comme vous, mais d'une autre espèce. Un aventurier du gras. Lui aussi, il adore la nature, mais surtout lorsqu'elle s'incarne sous la forme d'une bonne côte de bœuf maturée. Grand fan de vos expéditions, il avait dignement fêté votre arrivée au pôle Nord en s'exclamant
« Petit tournant de pâté, pas dans le verre de rouge. »
Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Mathieu, bonjour Jean-Louis Etienne, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Chaque jour dans Delice in Extremis, vous nous fournissez Fissa, une recette dernière minute pour épater nos proches comme si on y avait pensé la veille. Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?
Eh bien, hommage ce... Pardon. Eh bien...
premier mot, il n'y arrive pas. Là, c'est encourageant pour la suite.
Eh bien, hommage cet après-midi à notre réalisateur qui, la semaine dernière, alors que...
Philippe Abardel.
Exactement. Alors que la semaine dernière, nous parlions des œufs brouillés en sortant de la chronique, il me dit « Mais moi, je fais des œufs à la vapeur. Est-ce que ça a un sens ?»
Des œufs
bon
à la
sens,
vapeur.
Je n'y avais jamais pensé. Ça j'avoue que j'avais une lacune.
Mais, mais surtout, comment il a pu avoir une idée aussi saugrenue?
Je ne sais pas. Il va falloir lui demander.
Ça m'inquiète. Même.
Et donc, j'ai creusé le sujet. Et en réalité, c'est assez génial.
Mais comment? Mais vous êtes en train de me dire que Philippe Abardel, notre réalisateur, a trouvé à inventer une recette.
Je ne pense pas qu'il l'ait inventé, parce qu'en cherchant un peu, effectivement, c'est une technique de cuisson qui existe depuis bien longtemps.
À la vapeur.
On peut se demander quel est l'intérêt, finalement, de
faire
des œufs
à la vapeur. C'est déjà très bon alors, de toutes les autres manières.
Voilà, alors, en ce qui concerne l'œuf dur, il n'y a aucun intérêt.
D'accord.
Parce que finalement, la cuisson est un petit peu plus longue, mais la texture de l'œuf reste la même. J'ai testé. Hein. En ce qui concerne l'œuf mollet, il n'y a aucun intérêt non plus. En ce qui concerne les œufs brouillés, on n'y arrive pas, parce que sinon, il faut ouvrir le cuivapeur en permanence pour tourner. Ça fonctionne pas. Mais en revanche, en ce qui concerne les œufs pochés, c'est absolument génial. Parce que l'œuf poché, c'est assez compliqué à faire. En fait.
Ah oui.
C'est simple, mais tout le monde en a un peu peur. Il faut de l'eau bouillante avec un peu de vinaigre, créer le tourbillon, casser l'œuf dans un ramequin, le mettre dedans, les barder après. C'est
oulala,
difficile.
Très compliqué.
Alors qu'à la vapeur, c'est absolument génial.
Mais comment vous
faites prenez à la vapeur votre cuivapeur ou un rice cooker, vous prenez vos œufs, des petits ramequins ou des petites tasses qui, évidemment, résistent à la chaleur. Vous mettez quelques petits grains de sel dans le fond. Vous cassez vos œufs individuellement dans les petits ramequins. Vous mettez dans votre cuivapeur pendant 4 minutes 30. Et ensuite, vous laissez reposer 45 secondes. Et vous avez des œufs pochés inratables. Ça marche remarquablement bien. Donc ce soir, petite frisée, poêlée de lardons, œuf pocheté par-dessus, quelques croûtons, une délicieuse salade avec un œuf poché à la vapeur. Merci Philippe. Dernière petite précision, au micro-ondes, n'essayez pas, ça ne marche pas du tout.
Non.
Parce que là, évidemment, que le principe du micro-ondes, c'est d'agiter les molécules d'eau, de les faire chauffer. La pression est trop forte dans l'œuf, il éclate, vous n'avez plus qu'à le nettoyer.
Ces molécules à lui se sont un peu trop agitées dans sa cervelle. Philippe Abardel nous a offert donc cette recette qu'on appellera l'œuf Abardel.
Exactement.
Hein, Olivier, vous avez l'autorité suffisante.
Partie de mon salaire. D'ailleurs.
Vous avez l'autorité suffisante dans le monde de la gastronomie pour imposer
oui,
une appellation
bien sûr,
comme
bien
ça.
Sûr.
Très bien. Olivier Pouls, merci. On vous retrouve chaque samedi dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1. Il publie Aux arbres citoyens, l'explorateur Jean-Louis Etienne passe l'après-midi sur Europe.
Europe 1.
Nous entrons, les amis, dans le Money Time. Parmi les journalistes en compétition aujourd'hui, un seul sera élu chroniqueur du jour. Caro, Charrier, Le Gall, Lacroix. Qui sera élu chroniqueur du jour? Qui aura la chance de fêter sa victoire ce soir en offrant sa tournée de Jet 27 au bar karaoké en bas de la radio?
Nanane Philibert pour aller danser le jerk.
Lacroix, calmez-vous, vous n'avez pas encore gagné. Le suspense est à son paroxysme.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
L'émission se termine. On était très honorés de recevoir aujourd'hui Jean-Louis Etienne, certainement le plus grand explorateur français, une légende, le premier homme à avoir atteint le pôle Nord en solitaire. Oui, Eva.
Et en attendant, moi je l'ai faite, la descente de l'Ardèche, et pas vous. Hein.
Bien. On passe un, on passe un bon moment. Hélas, l'heure est venue de nous quitter et de découvrir qui a été élu aujourd'hui chroniqueur du jour. Eva. C'est la tradition, on dévoile d'abord le vote de nos auditeurs.
Et bien encore une fois, là, ça fait 3 jours, c'est très très serré à chaque fois entre chacun des 4 journalistes. Et c'est des rivières volantes, le sujet d'Anne Le Gall qui a remporté
bravo
les suffrages.
C'est la poésie d'Anne Le Gall qui l'emporte, 2 points pour Anne. En ce qui me concerne, je donne mon point aujourd'hui. Et là, sans hésiter, pour une raison technique, qui est qu'il a dû improviser sa chronique de manière très rapide en 1 heure ce matin. Je félicite Jérôme Lacroix, je lui donne mon petit point.
Merci.
Car je ne dispose, vous le savez, que d'un point. Un jour, je changerai les règles. Vous le savez ici, le dernier mot revient à notre invité d'honneur, Jean-Louis Etienne. C'est à vous qu'il revient de trancher. Réfléchissez bien avant de nous dire qui, selon vous, mérite d'être élu chroniqueur du jour. Vous avez 3 points.
Je suis en train de réfléchir sérieusement. J'ai bien aimé Mathieu Charrier, Monet. Je trouve très inquiétant le sujet parce qu'effectivement, c'est de la fausse monnaie circule. Ça donne des idées. Ensuite, j'ai beaucoup aimé le bruit des serpents de Nicolas Caro, et surtout Soro, que j'adore. Les rivières flottantes, bien sûr, que j'ai adoré. Mais c'est pour les femmes d'Iran.
Et
pour
oui
les femmes d'Iran, le sujet est intéressant, mais quand même, ces femmes sont audacieuses, courageuses. Combien ont payé déjà pour ne pas aller au stade? Donc, c'est pour elles que je donne la couronne.
C'est magnifique et c'est une très très belle victoire de Jérôme Lacroix, une victoire nette et sans bavure aujourd'hui pour Jérôme qui va venir
deuxième consécutif, j'ai
récupérer sa couronne. Effectivement, c'est une première dans l'histoire de cette émission. Et quand on sait qu'il y a eu déjà 34 émissions, c'est dire si notre histoire est longue. Merci à tous. C'est Jérôme Lacroix qui remporte l'équipe est sauvage. On remercie Jean-Louis Etienne d'avoir joué le jeu durant ces 2 heures. Son livre Aux arbres citoyens est paru aux éditions Paulsen. Merci beaucoup Jean-Louis Etienne d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci également à ma Dream Team de la rédaction d'Europe 1, Eva Rock, Anne Le Gall, Mathieu Charrier, Nicolas Carreau, Jérôme Lacroix. L'équipe Sauvage revient demain 16h en public. Tout de suite, place à l'info sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs pour votre grand journal du soir. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Mathieu et bonsoir à toute votre équipe. Merci encore pour ces 2 heures. L'équipe Sauvage revient demain avec vous. Bien sûr, dès 16h, on sera au rendez-vous. Comptez sur nous.